le dentiste ou l'hygiéniste, elle est d'abord être humain. Il y a une stabilité qui donne une liberté. Parce que c'est vrai, non mais il n'y avait rien avant. Il n'y avait strictement rien. Je travaillais tout seul comme dentiste, je travaillais sous les arbres, sur une chaise. Et le patient il était sur sa chaise et moi je ne connaissais pas. Et j'avais mes ailes de poulet dans des positions monstrueuses. Je vous montrerai les photos il y a 29 ans de ça. Quand je vois mes copains qui travaillent dans des positions abominables, ça me rend malade pour eux, tu vois. Et en tant qu'ami, j'aimerais partager, mais en même temps, tu ne peux pas forcer les gens. Il faut qu'ils aient aussi, eux aussi, qu'ils prennent conscience. Alors, j'ai convaincu quelques-uns.
Jacques est un dentiste français. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Jacques, avant de s'installer à Auroville, en Inde du Sud, près de Pondichéry, il y a 29 ans, avait pratiqué la dentisterie pendant 10 ans, en France. Alors, naturellement, en arrivant, c'est ce qu'il a voulu faire. Mais à cette époque, dans les années 70, il n'y avait rien dans cette région aride et désertique du sud de l'Inde. Les villages vivaient comme au temps du Moyen-Âge, sans eau ni électricité et l'hygiène de vie déplorable. Face à un tel paysage, la sophistication de la dentisterie française faisait légèrement tache. Pendant plus de 20 ans, Jacques a parcouru les campagnes indiennes avec sa fraise et son générateur pour soigner et éduquer les enfants à une meilleure hygiène de vie. Mais un beau jour, tout s'arrêta. Jacques, après 19 ans de pratique, fut pris d'un mal de dos terrible. En se renseignant autour de lui, il comprit qu'il n'était pas le seul dentiste à souffrir du dos. Et c'est à ce moment-là que l'aventure commença pour Jacques. Jacques, est-ce que tu peux nous présenter où est-ce qu'on est?
Alors nous sommes à Periya Mudiliar Chavadi. C'est un village qui est donc proche de la mer, tout près d'Auroville. C'est un des plus proches centres, puisque nous avons 10 centres aujourd'hui, qui sont répartis sur une région de 10 km, de 100 km carrés, puisqu'il y a même un centre qui est de l'autre côté de Coudreau, qui s'appelle Poutouraï, et qui se trouve à peu près à 13 km d'ici. Hein. Donc c'est quand même une région assez dispersée. Voilà, donc ça c'est un des centres les plus près. C'est pour ça que je vous y ai emmené ce matin. Et puis il est sympa parce qu'il y a une petite terrasse, on peut travailler dehors, donc voilà. Alors ces femmes-là, viennent du village, elles ont été formées comme hygiénistes, mais la différence c'est qu'elles travaillent en proprioception, donc je leur offre un métier dans lequel elles peuvent garder leur dos droit, ce qui est merveilleux pour un dentiste comme moi qui a souffert 18 ans de mal de dos. Voilà. Alors, elles sont deux, il y en a une qui est l'opératrice et l'autre qui fait l'assistante. Et puis elles interchangent, parce qu'elles ont la même capacité, la même formation. Très précise.
Est-ce qu'on peut aller les voir de plus près?
On va aller voir le plus près. Alors là, on traite des petits-enfants des écoles. On entraîne 5 ou 6. Alors, une femme va les chercher à l'école, les amène ici. Les autres, ils jouent ou ils regardent parce qu'on démystifie la dentisterie. Et quand c'est fini, on les ramène parce que la route est très dangereuse. Donc ça, c'est la responsabilité de l'hygiéniste. Sachez que ce que vous voyez ici, c'est unique en Inde. Il n'y a aucun centre en Inde, le petit centre dentaire, où les opératrices, donc les hygiénistes, travaillent avec le dos droit. Oui. Sur une table allongée, le patient est allongé, et dans ce concept-là. Ça n'existe pas aujourd'hui.
En Inde, c'est 1 milliard d'habitants, dont 7 millions de personnes qui n'ont pas accès aux soins dentaires, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de dentiste dans les campagnes. La dentisterie, telle que nous la connaissons, est une médecine beaucoup trop sophistiquée. Elle requiert des équipements lourds et coûteux, et un savoir-faire délicat et complexe. Une médecine finalement très peu adaptée aux campagnes des pays en voie de développement. Pourtant, comme nous le dit Jacques, seuls 10% d'entre eux auraient besoin de véritables soins dentaires. Le reste peut se soigner sur place et requiert très peu de compétences techniques. Alors, pour pallier à cette demande, Jacques a formé ce qu'il appelle des hygiénistes aux pieds nus.
Oui, ART or silent, bien Sundari. ART. Là, elle va faire une petite cavité, elle va remplir avec un ciment. Ce sont des ciments spéciaux, japonais, très sophistiqués. Ça a été étudié pour travailler en milieu humide. Là, il n'y a pas de matériel dentaire sophistiqué avec le courant et l'eau sous pression. Donc, on travaille avec des cotons pour sécher. La cavité reste humide, le ciment va quand même coller, c'est des ciments qui ont la particularité de coller à la dent et de relâcher du fluor. Donc ça peut même guérir un fond de cavité qui n'est pas parfaitement nettoyé. La qualité n'est pas forcément extraordinaire, mais ça compense. Donc ça a été très étudié pour ces conditions-là. Et ce qu'on veut, c'est stopper un début de carie. Le petit soin qui évite le grand soin, le gros soin, qui sera douloureux, coûteux, qui va nécessiter après de la technologie, de la prothèse, les implants pour terminer. Bon, donc tout ça, il n'est pas question. Et dans les villages, pour les 700 millions de gens, peut-être 10% nécessitent le dentiste, je ne sais pas la proportion, peut-être 10 ou 20%, mais les 80%, les trois quarts des problèmes sont résolus sur place ici. Et ce qui compte, c'est aussi la prise de conscience. Quand on a les petits-enfants, eh bien toute la vie, normalement, ils vont continuer. Et si régulièrement, nous, on va les suivre jusqu'à l'âge de 15-16 ans, en principe, après, ils sont adultes, ils auront la conscience du dentiste, peut-être de se faire contrôler. Et donc, c'est une population qui devrait éviter vraiment les soins dentaires, qui sont finalement, personne n'aime les soins dentaires, et qui coûtent de l'argent.
Ça coûte combien par an si on soigne comme ça?
On a fait un calcul pour des enfants comme ça, pour 3,5 euros environ. Pour payer l'infrastructure, la maintenance du matériel et tout ça, à peu près pour 3 euros, enfin bon, voilà, c'est l'ordre de grandeur, par enfant, dans une population de 3000 enfants, eh bien on peut donc faire cette dentisterie qui est très bon marché. 3 euros par an, à part exception, même en Inde, ils peuvent le faire. Alors que si vous allez à Pondichéry, tout ça va 200-300 roupies la moindre chose. Donc on n'en sort pas. Alors ou ils ne sont pas traités, ou après c'est encore des choses beaucoup plus graves. Donc on est à l'opposé. Là c'est pareil, on est dans le gâchis, dans la souffrance. On est dans tout ça qui est complètement faux. Tout est faux. C'est ça la révolte qui gronde chez moi. Parce que je vois, moi, cette misère-là. Hein. Quand je suis arrivé à Auroville, j'ai vu que des cas monstrueux. J'ai fait des extractions pendant des années, des abcès, des choses comme ça. Pas possible. Ben là, maintenant, la génération des enfants, des petits-enfants à Auroville aussi, hein, tous les petits-enfants dans notre giron, c'est fini. C'est de la petite chose. C'est un bilan, un petit détartrage, une petite cavité, et c'est fini. À part exception. Il y a toujours des exceptions, bien sûr. Mais enfin, voilà.
Est-ce qu'il y a un apprentissage? Est-ce qu'on leur apprend à entretenir leur dent?
Oui, bien sûr. Alors ces femmes-là, elles sont éducatrices. Elles vont à l'école avec les professeurs. Elles vont parler du brossage. Dans la mesure du possible, distribuer des brosses à dents. Il faut contrôler la distribution parce qu'elles ne soient pas revendues non plus. Donc c'est pas si facile que ça. On rentre là aussi dans des conditions locales très très particulières. Mais voilà, c'est une question de moyens, de mise en œuvre avec des gens qui veulent bien encadrer. Distribution des brosses à dents, brossage après les repas, éviter les sucreries, le sucre blanc, les mamans aussi, plutôt du riz complet plutôt que du riz blanc, et se laver les mains avant de manger. Enfin, il y a tout ça, hein, ça rentre en ligne de compte. Hein, c'est pas seulement la bouche, hein, c'est aussi l'hygiène générale. Ces femmes-là ont une formation.
Ah. ஐ ஒரு மணி நேரத்துக்கு அதை கடிக்கூடாது. ஒரு மணி நேரத்துக்கு அது கடித்த கண்ணாடி பாடுறதே.
Since how long you work here?
I am working 15 years.
Thai depuis 15 ans. Do you like to work here?
Yeah, I like very much.
And you work full time here?
Yeah, full time job.
Sometimes there is dentist coming?
Yeah, sometimes.
Is it hard to learn this technique?
We are learning from Jacques. Yeah, many training. He will learn some art technique and she learned everything. He's training many times.
C'est du grand bonheur pour moi. Hein. Tous les jours, je suis vraiment heureux de voir que dans un village quand même très pauvre, bien ça c'est déjà une prise de conscience. Et à long terme, ça va être une économie pour tout le village. Et une confiance, puis finalement personne n'a envie d'être chez le dentiste. Là on fait des petits soins minimum. Voilà.
Maga.
Arun Pandi.
You can ask how old are they? They are 6. You can ask, how do you say that?
Après 10 ans de pratique dans les campagnes à former ces femmes hygiénistes, Jacques fut confronté à un nouveau défi. Un défi avec son corps. Car si le patient redoute souvent le dentiste, considéré comme un des soignants les moins aimés, les dentistes ont eux aussi leur calvaire, le mal de dos. On estime qu'une grande majorité des professionnels de la dent souffrent du dos à cause de mauvaises positions et diverses contorsions pour accéder aux recoins de notre bouche. Bien avant d'arriver en Inde, Jacques avait entreaperçu lors d'un salon une étrange méthode. Une méthode venue tout droit du Japon qui permet aux dentistes de soigner des patients tout en gardant le dos bien droit. Son dos ne lui laissant guère le choix, il partit aussitôt pour le Japon.
Moi, j'ai eu mal au dos 18 ans. Donc ça a été le grand déclic dans ma vie. Ras-le-bol, au bout de 18 ans, je suis à Auroville, en plus je suis un bénévole, j'ai pas un rond, et je me casse le dos, donc je veux dire, j'ai flippé comme une bête. Je suis parti au Japon, j'ai été chercher un concept qui a été mis au point par un Américain qui vit là-bas d'ailleurs. Et j'ai ramené ça ici, à Auroville, donc nous sommes les bénéficiaires d'une belle clinique. J'ai travaillé pendant 15 ans, justement, avec un corps en équilibre, enfin un dos en équilibre. Et je redonne un métier à des femmes qui ne sont pas des professionnelles, mais je redonne un métier dans lequel elles peuvent travailler le corps en équilibre. Et donc ça, c'est très important de ne pas non plus faire du travail dentaire avec des dos cassés.
Cette méthode, ou plutôt ce concept, appelé le concept zéro, est un concept de santé universel. Centré sur l'humain, où le zéro, symbole universel, représente l'équilibre parfait et l'absence de besoin de soins. L'idée est d'optimiser la qualité des soins en améliorant la position des dentistes avec leurs patients. La méthode est basée sur la proprioception, qui est la réponse logique, instinctive du corps face à un acte à accomplir dans un espace ouvert. Elle permet de garder une position naturelle, sans stress, demandant le moins d'efforts possible. Le résultat est aussi simple qu'efficace. Le patient s'allonge totalement sur un plan horizontal stable, comme sur un lit ou sur une table, et non plus sur un fauteuil dentaire basculant. Le dentiste, quant à lui, garde la tête droite. Il est assis le dos bien droit derrière la tête du patient et le regarde à l'envers.
C'est un concept de santé et non un concept de maladie. Notre philosophie, c'est du zen, c'est de la simplicité, c'est le minimum de besoins de matériel, le minimum de besoins de soins. Là, vous voyez une tête. C'est pour faire de, pour sentir, parce qu'il n'y a pas d'enseignement. C'est une découverte personnelle. On découvre quel est le besoin du corps quand on veut travailler. Eh bien, évidemment, on veut voir directement. Donc, dans une bouche, on va se pencher. C'est normal, on va essayer de se pencher. Et puis, pour se pencher, puis après, on va prendre l'instrument pour travailler et on va se mettre. Et là, je vais voir en direct, sur une dent en haut, là, je vais vraiment voir comment il faut faire. Mais je vais être dans un stress terrible. Et si je travaille 8 heures par jour, je vais avoir le dos pété. Et si je fais, je vais pas pouvoir finir ma carrière. L'approche de travailler en bouche est complètement différente. Et là, oui, il faut se redéconditionner. Ce qui est très difficile, plus on est âgé, plus c'est difficile. Moi, j'ai eu du mal, hein. J'ai mis plus de 2 ans à me reconditionner. C'est très, très difficile. C'est incrusté dans le physique. Et finalement, on est dans notre stress, on est aussi confortable quelque part. Et parce qu'on est habitué à travailler dans certaines positions, même si elles sont extrêmement pénibles, eh bien, enfin, on acquiert cette maîtrise quand même. On la compense avec le stress, mais on y arrive. Ça dépend de ce que tu veux dans la vie. Tu veux vraiment changer complètement ou tu veux avoir un truc de brick and block? Oui, bah pourquoi pas. C'est encore mieux que rien. Mais quand tu vois les conditions locales dans certains cabinets dentaires, c'est une folie complète, tu vois. Si tu prends une vidéo, c'est un cirque total. Mais c'est dément. Et alors, tu as tous les fils électriques, les encombrements, les objets, les machines, et on est entre là-dedans. Et il est où l'être humain là-dedans? Là, c'est l'inverse. La machine est complètement intégrée, elle ne se voit pas, le patient il va sur son équipement, il s'allonge lui-même, tout est libre, il n'y a rien, il y a une stabilité qui donne une liberté en fin de compte. Et le grand piège, c'est que quand tu poses la question au dentiste, êtes-vous content de votre équipement? Il dit oui, je suis content parce que je peux ajuster l'élan, je peux tout ajuster mes plateaux pour mes instruments, je peux tout ajuster, il est content. Mais il ne se rend pas compte qu'il est esclave, c'est l'inverse, nous on a une stabilité, ça nous libère complètement cette stabilité. L'équipement plat, il est stable. Le plateau pour instrument, il est stable. Les lumières sont stables. Tu as la liberté. Et pour toute ta vie. Mais il y a une discipline. Si tu veux utiliser, il faut une discipline.
Et pour le patient, c'est plus agréable d'être allongé?
Qu'est-ce qui est le plus agréable pour un patient? Un patient, d'abord, c'est comme un dentiste, c'est d'abord un être humain. Un être humain, la meilleure position pour lui, c'est d'aller où il soit. Et bien là, il va sur un lit, il s'allonge. Et tu ne vas pas aller dans un lit électrique, sauf si tu es un vieux et que tu as besoin, ou que tu es hospitalisé, mais sinon, tu t'allonges dans ton lit toi-même. Tu te contrôles toi-même. La liberté, c'est ça. C'est qu'il faut, le maximum de liberté. Si tu as une machine qui te guide en arrière, tu ne te sens pas très confortable. On a fait des statistiques là-dessus. C'est une aberration complète, mais personne ne trouve à dire parce qu'un dentiste égale un fauteuil dentaire. Et ici, j'ai décortiqué justement où est le problème. Le problème, c'est le fauteuil dentaire. Et c'est l'éducation qui remonte à la faculté. Et la faculté, elle te donne un diplôme après avoir travaillé des années sur un fauteuil dentaire. Les fauteuils dentaires, c'est les industries. Et il y a une bonne petite connexion entre les industries et les deans des universités. Et donc, on continue. Le schmilblick continue toujours. Et c'est un scandale fou. C'est une révolte, c'est vraiment révoltant. Alors, il y a très peu de gens dans le monde qui sont conscients que cette histoire, on va dire, elle est devenue machiavélique, puisque ça continue de s'entretenir avec de plus en plus de sophistication, de gaspillage, mais finalement, où personne n'est heureux. Le patient, il est très content d'être au lit, il est allongé, donc il est confortable. Le dentiste ou l'hygiéniste, elle est contente parce qu'elle est en équilibre. Tu communiques ton propre bien-être à lui. À partir du moment où il y a un bien-être, il y a une confiance, et à ce moment-là, tu peux traiter mieux avec... c'est tout gagnant, mais c'est trop beau.
Face au lobby et à l'industrie dentaire qui régit le marché européen, Jacques, à son petit niveau, se sent parfois démuni, voire impuissant. Cette technique impliquerait une modification radicale dans le milieu de la dentisterie, que ce soit dans les équipements ou dans la formation. Difficile de changer l'ordre établi et les habitudes, aussi néfastes soient-elles. Jacques a pourtant décidé de continuer sa petite révolution à son échelle locale. Car si cette méthode requiert trop de changements pour les pays développés, elle peut parfaitement s'adapter aux pays en voie de développement. Mais pourtant, là aussi, il est confronté à certaines résistances.
Et il y en a, ce qu'ils veulent, c'est faire des dentistes. Ils veulent les envoyer dans les villages quand même, ils sont conscients qu'il y a une grosse lacune, mais ils ne veulent surtout pas d'hygiénistes.
Pourquoi ?
Parce que c'est le lobby des dentistes, c'est chasse gardée. Donc des dentistes dans les campagnes qui seront payés des prix faramineux, parce que les mecs ils vont demander des sommes énormes, à un gouvernement qui sera incapable de payer des milliers de dentistes à ce prix-là. On n'a pas besoin de dentistes pour faire des petites préventions, des petites choses comme ça. On a besoin d'un dentiste pour 10 hygiénistes. Et donc c'est une politique complètement à l'opposé, encore une fois, qui va dans le sens. Ils vont mettre des fauteuils dentaires dans les campagnes, ils vont mettre des dentistes qui vont faire les mêmes choses qu'une hygiéniste que moi j'entraîne, parce qu'on peut le faire, pourquoi ? Parce qu'en proprioception, on peut avoir ce sens manuel. Quand le corps est en équilibre, il a le sens manuel en trois dimensions dans l'espace. C'est tout. Et c'est ça le génie de l'histoire. J'ai une vidéo qui est de très mauvaise qualité, malheureusement, il y a 15 ans, quand j'ai fait la première fois la fin de des exercices. Ont duré 6 matinées. La 6e matinée, je l'ai fait tailler sur la même tête artificielle en clinique. Je leur ai fait tenir une turbine dans la main. Une turbine, c'est un instrument que personne n'a, sauf les dentistes. Une turbine, c'est un instrument fabuleux. Ça tourne à 500 000 tours minute. Tu tailles pas dans du fer, mais dans de l'émail, comme dans du beurre. Donc, il faut que tu sois précis. Ouais. Sinon, tu fais n'importe quoi. Eh bien, ces femmes-là ont tenu la 6e matinée une turbine. Elles ont taillé dans une cavité en plastique. Hein. Bon, c'est pas dur. Donc, c'est d'autant plus difficile que c'est pas dur. Parce que c'est comme dans du...
Pas de résistance.
Aucune résistance. Il faut avoir un contrôle manuel extraordinairement fin pour contrôler ta turbine. Elles l'ont fait, l'exercice. Elles l'ont fait. Elles ne vont jamais utiliser de turbine dans le village. Mais ça veut dire qu'elles ont, au niveau manuel, elles ont comme acquis, tu vois, cette précision. Et ça, c'est impossible de le faire si tu es en stress. Quand j'étais, en troisième année, la première fois que j'ai commencé à tenir, c'était même pas une turbine. On nous interdisait à l'école dentaire d'avoir une turbine. C'est trop dangereux. On avait ce qu'on appelle la fraise électrique pour tailler dans une molaire en haut. La première fois que je devais tailler dans une dent en haut, j'ai eu un flip tel que je dis, mais je ne serai jamais dentiste. Impossible. J'ai eu une angoisse existentielle. J'ai 3 ans de mes études foutues. Je ne peux pas être dentiste. C'est pas possible. Je ne pourrais jamais faire ce métier. Et encore, je le faisais dans la bouche. Je ne voyais pas très bien. J'étais en train d'ajuster. C'était effroyable, le cauchemar, tu vois. Des femmes de village, 6 matinées, elles me taillent le truc. Donc, ça ne fait pas plaisir aux universitaires qui veulent garder leur petit fromage. Et le petit contrôle sur les étudiants qui vont, eux, continuer à se péter le dos et à être malheureux toute leur vie. Et à 50 ans, ils vont marcher comme des copains. Tu as beaucoup de dentistes en Europe aussi, en France, qui se suicident. Il y a aussi des suicides énormes, paraît-il, au niveau statistique. Mm-hmm. Ça correspond à quoi ? C'est un métier stressant mentalement et en plus physiquement, tu vois. Donc.
Comme le dit Jacques, en Inde aussi se pose le problème de la légalisation officielle de ces hygiénistes aux pieds nus. Pour appuyer cette recherche et obtenir une reconnaissance internationale, Jacques s'est réuni au sein du GPEC, le Global Engineering Promotion and Education Collaborative, qui regroupe 140 adhérents pour œuvrer ensemble dans la fabrication, l'éducation et la promotion de ce concept global ou concept zéro.
C'est une organisation non profitable, NPO, Non Profitable Organization, non profitable. Ça a été enregistré légalement aux États-Unis. Et donc il y a un directeur américain, un Allemand, Wolf, que vous connaissez d'ailleurs, qui est notre ami ici, Jacques Verret, moi-même, français habitant en Inde. Et puis il y a un Coréen, On est un groupe de 6. Et il y a 140 sympathisants qui sont la plupart des dentistes, qui, eux, travaillent au Japon en proprioception. Et quelques-uns aux États-Unis. Mais le concept est resté... Il a flambé un petit peu dans les années 80-90. Et puis, ça t'est... Il n'y a pas eu derrière nous une industrie, une puissance financière qui a... Et finalement, il y a même eu un torpillage de l'histoire. Et les gens qui ont essayé, ils n'ont pas eu le support derrière, tu vois, de la communication et de l'industrie. Et aujourd'hui, moi, je me plante parce que justement, je n'ai pas d'industrie derrière moi. Et c'est ce que je cherche à travers le Sirou. Et là, on débouche sur autre chose. Trouver un grand tata, un mec qui a vraiment un grand esprit, large, généreux. Parce que c'est de la générosité aussi, tu vois. C'est de donner à son pays... des équipements qui sont super top pour des dentistes qui seront heureux de travailler, qui feront de la dentisterie de qualité. Mais ça, c'est vrai que ça bouleverse pas mal de choses. Et là, il faut des gens courageux et qui n'aient pas peur. Et pour ça, mais il faut les moyens financiers aussi de le faire, tu vois. C'est pas le tout d'avoir des belles idées. Il faut les moyens de réaliser. Et ça rejoint tous les changements de paradigme nécessaires, que ce soit en écologie, en éducation, pour tous les domaines de la vie aujourd'hui sur Terre. C'est l'impasse. Et aujourd'hui, médecine dentisterie, on est en impasse, avec les gâchis économiques qu'on ne peut pas suivre. La sécurité sociale en France, c'est un désastre. Tout ça, c'est à revoir complètement de A à Z. C'est très faisable au niveau fric et au niveau technique. Mais c'est une question après de volonté de faire quelque chose qui soit totalement innovateur. Et là, tout le monde a peur. Tout le monde s'attend les uns les autres. Comme on n'a jamais vu d'équipement plat, il n'y a que des fauteuils dentaires et qui se vendent. Pourquoi tu comprends, c'est un tel changement d'optique. Et là, on rentre dans le fameux business, le nouveau business, nouvelle éthique avec Marc Louis et tous les autres. C'est tout ça, ces changements. Et je voudrais maintenant, pour terminer, si je peux terminer, parce que je peux en parler pendant des heures et des heures, c'est me joindre à un groupe de gens qui veulent ces changements de paradigme. Moi, je suis dans la santé, l'autre, il est dans l'éducation, l'autre, il est dans la nourriture, enfin, chacun a ses domaines, tu vois, et il faut qu'on s'allie, parce qu'il faut qu'on soit tous ensemble. C'est pas tout seul. On est tous perdus face à des lobbies monstrueusement puissants et il faut qu'on crée notre propre contre-lobby. Mais pour ça, il faut mettre toutes nos volontés de changer ensemble. Parce que les bonnes volontés, il y a plein de bonnes volontés. Mais quand on voit les conséquences, quand on voit le défi que ça propose, ça peut faire peur.
Les intérêts, ça bouscule un peu.
Ça détruit tout, tu vois. Ça détruit tout, ça casse tout le schmilblick est cassé. Mais enfin, comme tout pète, c'est peut-être le moment maintenant d'y aller. Hein. C'est la nouvelle conscience, c'est complètement dedans, tu vois. Et moi, je voudrais participer à ce mouvement-là.
Programme réalisé par Chloé Sanchez. Merci à Jacques Verret, à Florence Maton pour Radio Aligre, à Aurélien Bertigny pour Radio Campus Besançon et Auroville Radio. Pour plus d'informations sur le travail de Jacques et le concept zéro, www.auroville.com/dentalcentre.
Ça détruit tout, ça casse tout le schmilblick est cassé. Mais enfin, comme tout pète, c'est peut-être le moment maintenant d'y aller.